Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et c'est parti pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie. Et oui mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors profitez, la demi-heure qui suit, on va la passer ensemble et vous allez pouvoir découvrir un extrait d'un roman érotique un petit peu hors du commun. Ce roman érotique s'appelle Vox. Il a été écrit par Nicholson Baker en 1992. Je suis tombée dessus un petit peu par hasard, j'adore me balader chez les bouquinistes, et la couverture m'a intriguée, et quand j'ai lu le quatrième de couverture, il y a le petit résumé, je me suis dit « mais j'adore, j'ai trop envie de lire ça, quoi !» C'est un dialogue entre deux adeptes d'une forme d'hérosexuel, le sexe par téléphone. En fait, dans Vox, c'est la conversation ininterrompue de deux inconnus qui se sont connectés sur une espèce de plateforme, en fait, où... Alors, c'est en fait dans des journaux, il y a des petites annonces pour du téléphone réaliste et fantasme par téléphone, parle jusqu'au bout de la nuit, des trucs comme ça. Et en fait, quand t'appelles, c'est une plateforme qui met en connexion des gens entre eux, un petit peu par hasard en fait. Et là, c'est deux inconnus qui se retrouvent connectés ensemble par téléphone pour une discussion érotique. C'est vraiment très très bien écrit et c'est un roman érotique vraiment à part puisque... c'est assez maladroit. Déjà, il ne va pas y avoir de chat, de bite, de contact, il n'y a pas ça en fait, puisque c'est que par téléphone. Et c'est comment ces deux inconnus font connaissance, et ils font connaissance pas en se disant « ouais, moi je suis un beau gosse, moi je suis une belle meuf, putain, j'ai trop envie que tu me prennes et tout », pas du tout. Mais en se dévoilant et en échangeant sur qu'est-ce qui est érotique pour l'un, l'autre, en révélant leurs fantasmes, leurs rêves érotiques, leurs coups ratés, réussis, leurs expériences, leurs bizarreries. C'est à part, mais ça marche très très bien en fait. Puisque quand tu lis, l'érotisme monte petit à petit, tout à coup, et en plus ça redonne toute son importance à l'imaginaire. Alors moi je connaissais pas Nicholson Baker. Donc j'ai été sur Wikipédia et j'ai découvert qu'en fait, aux États-Unis, il est considéré comme l'un des écrivains les plus talentueux de sa génération. Et ben, en tout cas, Monsieur Baker, votre roman Vox est une réussite. Je me suis régalée. Alors, profitez de cette lecture puisque ce roman n'est plus édité, je vous le dis. Donc là où je suis sympa, c'est que sur l'article qui présente la lecture du jour, je vous ai dégoté quelques liens pour acheter le livre d'occasion. Vous retrouverez l'article, les liens sur mon site, évidemment, charlie-tantra.fr. Et en attendant, eh ben écoutez, bonne découverte, bonne immersion. Je vous lis un joli extrait de Vox de Nicholson Baker. Par exemple, quand vous jouissez, vous écartez un peu les jambes. Oui. Et vous possédez l'une de ces fameuses douches massage waterpik. Oui. Mais je ne me sers pas des accessoires spéciaux. Elle était déjà installée quand j'ai emménagé. C'est pratique pour nettoyer la baignoire. Mais quand je... Enfin, je ne la tiens pas. Je ne la glisse pas entre mes jambes, rien de tout ça. Je la traite comme une pomme de douche normale. Ce que je fais? Oui. Quand je vais jouir? Oui. Je... Oui. J'ouvre la bouche et je la laisse se remplir d'eau. Et l'impression de toute cette eau qui déborde. Vous êtes toujours là? Continuez. C'est tout, dit-elle. Vous étiez sous la douche hier soir. L'eau coulait sur votre visage et rebondissait sur les différentes parties de votre corps comme les billes d'un flipper, et vous aviez les yeux fermés. À quoi pensiez-vous? Oh, j'aimerais... Pardon? Vous murmuriez. « Je disais que j'aimerais... clic !» dit-il. « Quoi ? Excusez-moi, j'ai parfois des problèmes de déglutition incontrôlée. Je disais que j'aimerais plaquer mes mains sur vos cuisses, tout en haut, les écarter et couvrir votre monde Vénus de ma bouche, puis simplement respirer, sentir mon souffle pénétrer à travers le tissu de votre slip. Oups ! Vous avez les jambes écartées en ce moment. Elles sont croisées, les pieds posés sur la table basse. Il faudra que je m'en contente, dit-il. Racontez-moi à quoi vous pensiez hier soir sous la douche. Franchement, je ne crois pas me souvenir. De toute façon, mes pensées défilent trop vite. D'un autre côté, je ne me contente pas de jouir. Je me rappelle souvent des situations embarrassantes ou un truc idiot que j'ai dit, et je chasse l'intrus en l'injuriant. « Laisse-moi tranquille, espèce de saloperie !» Par exemple, je peux me remémorer une soirée d'où je suis rentrée plutôt ivre, au point d'avoir l'impression que j'allais être malade, mais il y avait quelqu'un dans ma salle de bain qui se lavait la figure et se brossait les dents en chantonnant, et moi, adossée à la porte, gémissante, je frappais poliment, je grattais, mais il avait dû mettre le loquet car je n'arrivais pas à ouvrir, et il paraissait ravi de m'entendre, ou bien, pensant que je plaisantais, il donnait de petits coups contre le battant. Et alors, j'ai fini par vomir sur la porte de ma propre salle de bain. Quelle horreur ! Désolée d'être aussi triviale. Heureusement, c'était l'éponge classique. Il a été très gentil. Il m'a nettoyée, a nettoyé la porte, m'a déshabillée et m'a passé ma chemise de nuit. Ce même type qui plus tard m'a laissé tomber sans cérémonie parce que je lui avais demandé de mettre son stylo dans sa poche de derrière. Mais sous la douche, ce genre de souvenir me revient et je m'efforce de le refouler à grand renfort de jurons. « Je vous comprends. Fous le coin de ma douche. Allez, tire-toi !»«
Ouais, c'est ça. Et puis, je me lave aussi. Et je pense à tout ce que j'ai à faire. La masturbation n'est qu'un élément de la liste. Je n'y consacre pas ma vie entière. »«
Ah oui Oh non, enfin, je veux dire, je le sais très bien, mais... »«
Vous vous lavez les cheveux avant ou après avoir joui ?»« D'ordinaire, je me débarrasse en premier des corvées indispensables. » Puis je tâte l'eau pour voir si j'ai envie de jouir ou non.
« De quelle couleur sont vos cheveux ?» demanda-t-il.
« Châtain clair. Ondulé, mais assez court. Et les vôtres ?»«
Noirs, » répondit-il.
« Et maintenant, dites-moi quelles sont ces choses à faire auxquelles vous avez pensé sous la douche. »
« Des histoires de travail, des lettres à écrire. D'ailleurs, je devrais être en train de les écrire en ce moment.
Non, non, pas du tout. » Et il faut que je repeigne l'entrée de mon appartement.
Oh ! À présent, je me souviens d'un de mes fantasmes érotiques d'hier. Les locataires précédents avaient posé un atroce papier au mur, une sorte de truc métallique avec un motif qui se répétait à l'infini, un arbre et une barrière contre laquelle s'appuyait une roue de chariot. Abominable !
En effet, ça ne me paraît pas génial.
En emménageant, je l'ai donc repeinte, dit-elle. D'une couleur baptisée « lanterne vénitienne ». Et j'ai mis deux couches.
On m'avait bien prévenu. Tu sais, si tu peins par-dessus du papier métallique, il va finir par ressortir.
Mais je n'ai pas pu me résoudre à le décoller à la vapeur comme il aurait fallu le faire, car je craignais que le dessin ne s'imprime dans mon esprit et ne revienne me hanter à 80 ans sur mon lit de mort. Je me suis donc contentée de peindre par-dessus deux couches bien épaisses. La première année, pas de problème. Seulement après, il y a eu un été terrible et l'humidité a dû faire gonfler le papier métallique si bien que maintenant, on distingue ma barrière et ma roue de chariot par transparence. Mais c'est très léger. En fait, j'aime assez. Il faudrait quand même que je me décide à repeindre. Alors, sous ma douche, je me suis imaginé à l'œuvre un rouleau à la main. Quelle perte de temps! Et puis je me suis dit... « Hé, une seconde, j'ai un peu d'argent. Cette fois, je vais embaucher des gens pour le faire à ma place. » Aussitôt, trois peintres se sont matérialisés et un énorme trou est apparu dans le mur, à environ 1 mètre du sol, assez large pour que, les jambes dans le vestibule, je puisse passer la tête et le tronc dans le séjour. L'ouverture était bien nette, bordée de peaux de mouton. Je n'avais rien sur moi. Mes mains reposaient sur deux pots de peinture pleins et, chose étrange, ils étaient chauds. Un peintre travaillait dans le séjour, les deux autres dans l'entrée, là où je trouvais le bas de mon corps. Celui que je voyais ne semblait pas avoir remarqué ma présence. Il me tournait le dos. Ceux du vestibule se servaient de rouleaux, mais tout petits, ceux qu'on réserve aux finitions à peine larges de 7 ou 8 centimètres. D'adorables petits rouleaux qui vont partout, absolument partout. J'ignore comment, mais je savais que l'un des deux se trompait de couleur et utilisait celle du séjour, appelée opale opulent,
Il devait l'avoir prise par erreur dans son camion. Très, très négligent, cet homme. L'autre était plus consciencieux. Il faisait les moulures en lanterne vénitienne.
À propos, ce sont les noms donnés par le fabricant, pas par moi.
Quoi qu'il en soit, j'ai crié « S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît, veuillez apprendre la bonne couleur, il y a un risque de confusion. »
Mais ils parlaient entre eux et ne m'entendaient pas.
Le bruit de leurs petits rouleaux me parvenait, tandis qu'ils continuaient leur conversation à propos d'une fille qu'ils avaient vue sur le lac ce week-end, à bord d'un canot à moteur, vêtue d'une salopette, avec ses seins qui ballottaient entre les bretelles. Puis ils ont évoqué la fois où, à l'occasion d'un chantier, l'un d'eux avait, je cite, « bouffé le cul de la femme dont il repeignait la maison, qui ensuite l'avait branlée devant la pierre craquelée de la cheminée parce que, en vraie maniaque qu'elle était, elle avait peur qu'il n'abîme son parquet en vieux pain. » J'ai de nouveau crié, aussi aimablement que possible, « Messieurs, je vous en prie, veillez à utiliser la bonne couleur. » Et cette fois, au lieu de répondre, l'un d'eux s'est borné à tremper son petit rouleau dans la laque lanterne vénitienne et à le passer sur ma fesse gauche, puis sur ma cuisse, le long de ma jambe, jusqu'au tendon d'Achille, puis à remonter, comme la couture d'un bas d'avant-guerre en plus large. Après, il a retrempé son rouleau et s'est intéressé à mon autre fesse. Aller et retour, aller et retour. Au début, il n'a exercé qu'une légère pression, de telle sorte que je sentais tout juste la peluche imprégnée de peinture sur ma cuisse, tandis que le rouleau me frôlait à peine. Mais en descendant, la pression s'accentuait. Un peu de peinture gouttait et dégoulinait sur ma jambe, et c'était chaud. Étonnamment chaud. Ils avaient laissé les pots à l'arrière du camion garés en plein soleil. Chaque fois que le rouleau passait derrière mes genoux, je frissonnais de plaisir, je marquais comme un chat qu'on caresse. Pendant ce temps-là, le troisième peintre, celui qui se trouvait dans la pièce où se trouvaient également ma tête et mon buste, poursuivait sa tâche avec entrain, me tournant toujours le dos, et une partie du travail au moins se faisait. J'espérais que ceux de l'entrée ne tarderaient pas à s'y remettre eux aussi, mais j'ai senti deux mains sur chacune de mes jambes qui m'ont soulevée tandis qu'on glissait deux pots de peinture sous mes pieds. Ce n'était pas une position particulièrement confortable. Les bords des pots me coupaient la plante des pieds, mes jambes étaient trop écartées et mes reins s'écrasaient contre la peau de mouton bordant le trou dans le mur. Pas particulièrement confortable, mais supportable. Puis, des doigts ont effleuré l'intérieur de mes cuisses. Et j'ai compris que le premier peintre entreprenait de tracer une bande lanterne vénitienne qui partait de la racine de mes poils pubiens et se déroulait lentement au-dessus de mon clito et du reste, comme une espèce de rouleau compresseur avant de repasser sur mon petit morceau de sucre candi. Entre-temps, le deuxième avait trempé son rouleau dans la mauvaise peinture, l'opale opulent, et, le tenant à l'horizontale, il a peint une raie sur mes fesses. D'abord une couche légère sur laquelle il est repassé, puis il a glissé son outil entre mes deux globes, et j'ai protesté « Non, non, je vous dis que ce n'est pas la bonne couleur !» Mais il a délibérément continué à enduire la région de mon... appelons-le le trou de mon poc, comme s'il ne m'avait pas entendu. De la peinture non toxique, naturellement. Ensuite, il a reposé le rouleau, a planté ses mains en haut de mes fesses et m'agrippant les hanches, il a fait un truc extraordinaire. J'ai senti tout son poids se porter sur mon dos, comme si, pareil à un acrobate, il se soulevait et se tenait sur les mains, les genoux fléchis, les jambes écartées et une seconde plus tard, son dard brûlant s'est pressé contre mon trou du poc opale opulent, puis s'est insinué dedans.
« Waouh !»
me suis-je écrié, et le peintre du living, surpris, s'est retourné, remarquant pour la première fois mon existence. Et dans le vestibule, pendant que mon gymnaste s'enfonçait effrontément en moi, son collègue, le sérieux, celui qui employait la bonne couleur, a utilisé ses pouces pour élargir mon vrai trou, pour maintenir mes petites et mes grandes lèvres. Et il s'est introduit lentement. « Waouh !» me suis-je écrié. J'avais toujours les mains sur les pots de peinture. Les yeux de l'homme devant moi se sont agrandis, et il a étudié mon visage, l'air de se demander « Mais à quel exercice cette femme se livre-t-elle donc ?» J'ai bien peur que mes lèvres, mes vraies, ne soient alors retroussées sur un rictus de plaisir. En fait, je devais avoir les traits tordus de celle qui déchire un paquet de préservatifs entre ses dents. Seulement, il n'y avait pas de paquet de préservatifs. Mon peintre a préparé son rouleau avec de la peinture. Un gris neutre et chaleureux, chaud je veux dire. Puis il s'est avancé et s'est allongé par terre sous moi, la tête contre la plinthe, si bien qu'entre mes seins qui se balançaient, je voyais son visage et ses lunettes éclaboussées de peinture. Il a passé le rouleau sur l'un de mes mamelons, entre mes seins, puis sur l'autre mamelon, tout en amenant un pot de peinture vers lui à l'aide de son pied, et ensuite, toujours sur le dos, les deux pieds sur le pot de peinture, il s'est arc-bouté, un peu comme un éléphant de cirque sur ses petits tabourets, vous voyez, et il a sorti sa queue. Dans l'entrée, celui qui s'occupait aussi de l'entrée de mon cul a choisi cet instant pour ôter ses mains de mon dos et tout son poids, à travers son sexe et les muscles de ses cuisses, a pesé dans mes fesses, tandis que celui qui s'occupait de l'autre trou et qui se tenait debout s'est retiré presque entièrement avant de se replonger jusqu'à la garde. Et sentant les muscles de ses jambes se coller contre moi, j'ai ouvert la bouche pour faire « Oh !» ce qui est presque à coup sûr ce que j'aurais fait si tout ça s'était réellement produit dans mon vestibule. Et bien entendu, à peine avais-je ouvert la bouche que la verge de l'homme en dessous de moi s'est glissée dedans, étouffant mon cri, et tous les trois sont venus, d'abord dans ma bouche, à mon étonnement d'ailleurs, puis dans ma chatte, et enfin dans mon cul. « Seigneur !» s'exclama-t-il. « Et c'est sur ce spectacle que vous avez joué sous la douche ?»«
Pour une part, oui. C'est-à-dire, à raconter, ça prend un moment, sinon ce n'était qu'une rapide succession d'images parmi d'autres. Il me faut un certain temps pour venir.
Parlez-moi des autres. »«
Ouais. La vision sur laquelle j'ai fini par avoir mon orgasme, il en a eu deux, en réalité.
Excusez-moi un instant. » Il y eut un silence. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» demanda-t-il lorsqu'elle revint en ligne.
« Je suis allée chercher une petite serviette pour m'essuyer en cas de nécessité. Je ne veux pas encore jouir et il semblerait que je sois déjà terriblement mouillée. »«
Vous voulez dire que vous avez ôté votre pantalon noir et vos baskets ?» demanda-t-il.
« Oui. »
« Et le slip ?»«
Non. »
« De quelle couleur est la serviette ?»«
Verte, »
répondit-elle. « Où est-elle ?»«
Serrée dans ma main, sous moi, là où j'en ai besoin. »« Maintenant, je l'enlève. »«
Pourquoi vous ne voulez pas jouir tout de suite ? Vous savez, ça ne me dérangerait pas. »«
Parce que si je jouis, je vais déprimer et avoir envie de mettre fin à cette conversation. »« Or, cette conversation me plaît. »«
Mon clitoris est perfide. » Il essaye systématiquement de me rouler quand je suis avec quelqu'un ou même quand je suis seule. Il me souffle.
« Allez, jouis, Abby, pas de problème. Tu pourras recommencer dans quelques minutes. C'est si bon. Allez, viens, ne sois pas si coincée. Je me sens d'attaque pour 3 ou 4 fois au moins. »
Mais je ne me laisse pas abuser. Je ne suis pas de celles qui connaissent des orgasmes à répétition. Une seconde après avoir joui, même si ça a été le déferlement, le raz-de-marée, terminé. Mon clito commence à se recroqueviller dans sa coquille clitoridienne et je pense déjà à autre chose. En général, 2 ou 3 heures plus tard, je me finis sous la douche, mais pas avant.
Je vois.
Alors surtout, gardez votre serviette à portée de main. On est parti pour un bon moment.
Parfait. Où en étions-nous ?
Vous alliez me dire ce que vous aviez à l'esprit en jouissant hier soir sous la douche.
Ah oui, mais vous pensez à l'image qui m'a fait jouir ou à celle qui m'a traversé l'esprit à l'instant où j'ai joui?
Je ne sais pas.
Mais ce n'est pas du tout pareil,
expliqua-t-elle.
Vous comprenez, les images réelles qui me viennent au moment de l'orgasme, ce sont des choses comme des éléphants de mer qui sommeillent sur des rochers, un tourniquet de cartes de vœux, un tableau enveloppé dans une toile de jute, un meuble de jardin. Mon cerveau délire au point qu'il est impossible de prévoir quelle bizarrerie il va encore inventer quand tous les flashs vont exploser. Ce ne sont presque jamais des images sexuelles.
Mais avant, lorsque j'approche de la jouissance, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, je suppose.
Hier, je crois qu'il y en avait deux qui se combinaient.
Oh, je me sens gênée.
Vous vous sentez gênée? Après m'avoir raconté comment vous vous êtes fait prendre par trois hommes à la fois.
Mais ce n'était qu'un fantasme, quelque chose qui m'a aidé à venir, que j'ai inventé, une scène que je me suis jouée.
Je vous ai bien raconté que j'avais acheté un roman d'amour, non? Et même que j'avais fait un geste obscène sur le toit de ma voiture. Je ne vous ai rien caché.
Décrivez-moi comment vous êtes en état d'érection.
De mémoire?
Non.
Vous voulez que je défasse mon peignoir, tout ça?
Oui.
Nouveau silence.
Bon, quoi vous dire? Il est dur?
Oui.
Est-ce qu'il l'était déjà?
Ou bien vous venez de le rendre comme ça?
Il l'était déjà un peu, mais je l'ai aidé. Parlez-moi. Regardez-le et parlez-moi.
C'est... Je ne sais pas, mon Dieu.
Vous le caressez?
Je... Vous désirez la vérité?
Oui.
Je pince le petit repli de peau sous le gland entre les doigts de ma main droite et de la gauche, je fais rebondir allègrement mes couilles.
Maintenant, caressez-le, dit-elle, lentement.
Bon, oh Seigneur, à chaque fois que je le frotte, les muscles se crispent. Bien sûr, ça a toujours fait ça, mais là, avec vous qui me demandez de regarder, j'ai l'impression que c'est ce qu'on remarque le plus, cette espèce de tressautement.
Plus vite.
Oui, mais juste une seconde, d'accord?
D'accord. Pas encore de combustion humaine spontanée.
Non. Ouh, c'est agréable.
J'entends à votre voix que vous vous titillez, méchant garçon.
Méchante turbation. Mais je ne veux pas venir tout de suite. J'arrête.
Prudent.
C'est bizarre, reprit-il. Pendant que je m'activais, je me suis représenté quelque chose que je me représente depuis des années sans l'avoir vraiment remarqué. Je me suis vu faire un geste impossible. Je me disais que si j'étais sur le point de jouir, il me suffirait de tordre la jambe pour emprisonner ma queue sous mon genou plié, de la serrer comme une noix dans un casse-noix et de stopper ainsi la montée de la jouissance.
Vous êtes un cas, vous. Et c'était plutôt amusant de vous donner ces ordres-là.
Et un peu effrayant aussi. Les règles sont différentes au téléphone.
Vous voulez savoir ce que j'ai réellement pensé quand vous m'avez demandé de vous parler de ma bite, une fois passée la seconde d'émotion et d'angoisse? Allez-y, je vous écoute.
Eh bien, ça m'a rappelé une femme de ma boîte dont j'étais amoureux, dit-il. Elle avait de longs bras. Des bras superbes, dont elle se montrait très fière. Elle ne devait pas posséder une seule robe à manches longues. Elle portait un amour sans espoir à une espèce de don juan nommé Lee, un type marié, un infâme coureur que, personnellement, je détestais au plus haut point. Cette femme savait que j'avais le béguin pour elle, et, en fait, je lui envoyais une note, un simple astérisque au milieu de la feuille blanche, chaque fois que je me masturbais à la maison en pensant à elle. J'ignore si elle trouvait ça charmant ou non. Dans l'ensemble, je crois que ça lui plaisait. Et de toute façon, je n'étais pas vraiment sérieux. Un jour, elle a même ouvert les bras en signe de perplexité et m'a demandé «
Comment ? Pas d'astérisque aujourd'hui ?»
Elle savait que j'adorais ses bras. Je me suis efforcée en vain de la convaincre de me laisser une note portant le symbole de la livre sterling à l'occasion de chaque nuit où elle se masturbait en pensant à Lee. Un soir que je travaillais tard, j'ai éprouvé l'envie de me titiller. On était en plein week-end et les couloirs étaient déserts. Je suis passée devant la porte du bureau de cette femme, elle s'appelait Émilie, et j'ai eu l'impression d'arriver devant une vulve gigantesque, au point de contenir tout un mobilier, et je me suis dit que je devrais faire une photocopie de ma queue, ou plutôt deux, une avant et une après, puis les déposer sur son bureau accompagné de mon astérisque traditionnel. Qu'est-ce que vous espériez ainsi ? Eh bien, ça m'intéressait de lui faire voir mon sexe, et comme je n'allais pas l'exhiber comme ça devant elle, j'avais besoin d'un peu de distance, pour prouver que, bien sûr, nous étions des adultes civilisés, que tout ça se traitait sur le papier. Vous savez, c'est plus difficile qu'on le croit de prendre une photocopie de son sexe. Je sais très bien que ça se pratique quotidiennement dans les bureaux, mais l'opération n'est pas aussi simple qu'il peut y paraître. Eh bien voilà, j'arrête là l'extrait de ce roman érotique hors du commun, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui s'appelle Vox, de Nicholson Baker. C'est compliqué à arrêter parce que vous voyez, tout s'enchaîne, se suit, ça passe d'une chose à l'autre, chacun révèle ses fantasmes, ses rêveries, ses érotismes quotidiens, ses fails aussi, sexuels, ses... Et du coup, en tant que lecteur, on est vraiment embarqué et ça amène à un endroit où, waouh, on peut révéler tout de nous, tous nos désirs, nos bizarreries, nos failles, et ça devient excitant. On est bien loin du monde de branchage par photo de bite, quoique là, il y a de la photocopie de sexe, hein, vous me direz. C'était l'ancêtre de la dick pic, peut-être, va savoir. Mais bon, bref, si vous voulez connaître ben justement la suite de cette aventure avec la photocopie de son sexe, parce que ça ne s'arrête pas là, si vous voulez découvrir aussi toutes les histoires qu'ils s'échangent, qu'ils se confient, les confidences, les histoires qu'ils inventent à deux, et comment ils arrivent à une apothéose et une jouissance, parce qu'ils vont finir vraiment par jouir ensemble à la fin. Eh bien, je vous invite à vous offrir ce livre Vox de Nicholson Baker. Alors, ça ne va pas être évident, je suis une petite vicieuse moi, parce que le livre n'est plus édité, hein, comme je vous l'ai dit en tout début d'épisode, mais sur l'article qui présente la lecture du jour, je vous ai mis quelques liens pour trouver le livre d'occasion. Alors, les prix diffèrent, ça c'est vous qui voyez, on peut le trouver à 3, 5, 10 euros. Après, il y a les grands malades qui vendent les bouquins d'occasion à 30, 40, 50 balles. Il ne faut pas non plus délirer, il faut se calmer les gars, quoi. Bref, je vous ai mis quelques liens, après à vous de chercher, de trouver. Et je pense que je mettrai un autre extrait sur mon Patreon. Alors Patreon, c'est quoi ? C'est un espèce de site de mécénat. Ça permet en fait de soutenir les lectures érotiques de Charlie, qui sont, vous le savez, un podcast totalement autoproduit. Je pense que je mettrai un extrait sur Patreon parce que bah, vu que ce livre est rare, vous aurez l'occasion de découvrir un autre extrait. Alors, si vous voulez devenir vous aussi Patreon et profiter d'un podcast exclusif par mois réservé qu'à mes Patreons, si vous voulez avoir les liens pour vous acheter le livre d'occasion, tout ça, c'est à retrouver sur mon site, bien évidemment, charlie-tantra.fr. Puisqu'à chaque fois, vous le savez, que je fais une lecture érotique, il y a un article qui présente la lecture et il y a tout dedans. Les liens pour trouver le bouquin, les liens vers les sites de l'auteur, s'il n'y a pas. Là, je n'ai pas mis de lien vers le site de l'auteur parce que je n'ai pas cherché, en fait. Voilà, je dois vous l'avouer. Mais je ne crois pas qu'il y ait de site. Quand j'ai tapé son nom, je n'ai pas trouvé de blog, de site. Et comme il est en anglais, enfin américain, en plus, vous auriez eu un blog en américain, ça vous aurait fait une belle jambe, mais il n'y en a pas de toute manière où je ne le connais pas, bref. Et puis à chaque fois, vous avez évidemment le lien vers mon Patreon si vous voulez soutenir les lectures érotiques de Charlie, parce que vous trouvez ça formidable, incroyable, merveilleux d'avoir chaque semaine 20 à 30 minutes de pur érotisme susurré au creux de l'oreille. Et bien, tout est dispo sur mon site charlie-tantra.fr. Si vous voulez me trouver directement sur Patreon, c'est patreon.com/charlieliveshow. Et bien voilà, vous pouvez reprendre une activité normale après avoir écouté un extrait exclusif de Vox de Nicholson Baker, qui n'est même plus édité, si c'est pas la classe ça. Et puis ben moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques, bien sûr. Ciao, ciao, ciao.